Une promenade dans le système solaire, c'est pour montrer, c'est une belle histoire, mais c'est pour montrer qu'on ne peut pas construire un modèle réduit du système solaire. Parce que finalement, si on veut respecter une échelle, les distances sont trop grandes par rapport à la taille des planètes. Alors, on a inventé cette petite histoire. On prend le Soleil, on le réduit à un ballon de 30 cm et on le pose au milieu d'un terrain de foot. Ça, c'est l'idée de Messier Laville, hein, c'est pas la mienne. Et après, on avance par exemple vers le but et on commence à chercher la première planète. La première planète sera Mercure à 13 mètres. Elle aura une taille de 1 mm. Bon, Mercure n'est pas une grande planète. Elle fait un quart de la Terre. Non, elle fait 40% de la Terre. Mais quand même, on continue. On arrive à 23 mètres et on trouve Vénus, donc une graine de poivre, 2 mm 6. On avance encore, on arrive pratiquement à la limite du terrain de foot et on trouve la Terre qui a à peu près la même taille de Vénus, un peu plus. On avance toujours, peut-être on sort du terrain, et à 50 mètres environ, on trouve Mars, qui lui fait la moitié de la taille de la Terre, 1,5 mm. Il faut faire un bon bout de chemin encore, et traverser une bande de sable que nous verrons correspondre aux astéroïdes, à la ceinture des astéroïdes, pour trouver finalement quelque chose de conséquent, c'est-à-dire une balle de ping-pong. C'est Jupiter. Et nous sommes à 170 mètres. Après Jupiter, il y a son petit frère ou sa petite sœur Saturne, qui fait 26 mm, donc à peine plus petite. Et on arrive à trouver deux planètes assez semblables, Uranus et Neptune, qui ont une taille 4 fois la taille de la Terre, mais on est déjà à 1 km du centre du terrain. Et finalement, on trouve quelque chose que je me refuse à définir comme planète, on verra pourquoi, qui est Pluton, qui a un diamètre de 0,5 mm et qui se trouve en kilomètre 3. Maintenant, on a fait le tour du système solaire. Si on voulait trouver quelque chose d'autre, il faudrait aller à l'étoile la plus proche. L'étoile la plus proche, c'est Proxima Centauri, comme le nom le dit. Elle se trouve à 4,2 années de lumière. On ne va pas pour l'instant rentrer dans les années de lumière, mais selon notre modèle réduit, ça se trouverait à peu près aux États-Unis. Donc, vous voyez que le système solaire, qui est une des régions du cosmos les plus densément, où il y a le plus de matière, si vous voulez, elle est complètement vide, cette région. Hein, parce qu'on a marché un kilomètre et demi, on a trouvé de rien. Donc tout cela, c'est ce que je viens de raconter. Et vous l'avez de toute façon imprimé si vous voulez vous amuser chez vous. Maintenant, commençons à voir quel aspect ont les planètes. En haut à gauche, vous avez Mercure, donc un petit rocher qui ressemble assez à la Lune finalement. On le verra mieux tout à l'heure. Ensuite, il y a Vénus. Vénus est le terrain de Vénus est invisible parce qu'il y a, une couche de nuages jaunâtre, si vous voulez, c'est de l'acide sulfurique. Hein, donc. Et on ne voit jamais le terrain. Et si on était sur le terrain, on ne verrait pas le ciel, on ne verrait pas le soleil, on ne verrait rien du tout. Ensuite, il y a une autre beauté, la Terre, vous voyez. Même si on ne la connaissait pas, on dirait tout de suite qu'elle est la plus belle. Mars, il est un peu rougeâtre, avec deux petites calottes de glace d'un côté ou de l'autre. Il est rouge plutôt parce que finalement le terrain est oxydé. Donc c'est de la rouille ou de l'aluminium rouge, si vous voulez. À partir de là, on a des planètes qui sont d'une autre espèce, c'est-à-dire ne sont pas vraiment solides, c'est des planètes gazeuses. Et donc ce qu'on voit, ce n'est pas le sol de la planète, mais c'est toujours l'aspect de nuages ou de l'atmosphère qui entoure la planète. Et il y a Jupiter. Les bandes, en revanche, qu'on voit sont de courants d'altitude, si vous voulez. Comme sur la Terre, il y a des jet streams, il y a des courants qui transportent les nuages, si vous voulez, à plus ou moins grande vitesse. Et donc, ces planètes qui sont gazeuses, qui ont une atmosphère, l'atmosphère a quand même par exemple dans le cas de Jupiter qui est un peu jaunâtre comme ça, c'est du soufre, c'est composé de soufre. Et comme finalement il y a des gradients thermiques, c'est-à-dire ce qui génère les vents sur la Terre, c'est les différences de température entre une partie et l'autre, et donc ces planètes ont une circulation dans l'atmosphère qui génère des magnifiques bandes comme ça. Ça vaut pour Jupiter et ça vaut pour Saturne. Saturne a des magnifiques anneaux, ça tout le monde le sait. Ce qui est moins connu, c'est que les autres planètes gazeuses aussi ont des anneaux, sauf qu'on les voit moins. Et les deux planètes tout à droite, donc c'est Uranus et Neptune. Là, on commence à voir du méthane, si vous voulez. Dans le cas d'Uranus, c'est du méthane gazeux. Dans le cas de Neptune, qui est aussi appelée la planète bleue, c'est des microcristaux de méthane. Nous verrons tout à l'heure les températures qui vont logiquement en diminuant au fur et à mesure où on s'éloigne du Soleil, et ça explique pourquoi les différentes substances changent aussi. Et finalement, il y a Pluton, qui est un amas de rochers de glace, si vous voulez. Et on verra tout à l'heure comment on sait de quoi sont faites les planètes. Alors, un petit clin d'œil, comme ça après on s'en occupe plus. Toutes ces planètes tournent sur elles-mêmes, à peu près dans le même sens, et le même sens dans lequel elles tournent autour du Soleil. Tout ceci conduit à penser que finalement, le système solaire, c'est une condensation, donc il y avait un nuage de poussière au départ qui s'est condensé. En se condensant, il tourniquait autour d'un centre, si vous voulez, et cette quantité de rotation a été héritée par le Soleil même qui tourne autour de lui-même et par les planètes qui tournent autour d'elles-mêmes et autour du Soleil. La curiosité inexpliquée est que l'axe de rotation des planètes n'est pas toujours perpendiculaire à leur orbite autour du Soleil. Je ne trouve aucune explication pour ça, d'autant plus que ceux qui ont une inclinaison, si vous voulez, ils ont toujours la même inclinaison. Vous voyez, la Terre 23, Mars 25, Saturne 27, Neptune 30. Hein? Ils sont tous à peu près alignés. Bon, il y en a un qui a eu un accident de route, donc Uranus, lui, c'est comme un rouleau compresseur, il s'enroule sur son orbite, si vous voulez. Quant à Pluton, bon, il est assez à part. D'abord, toutes ces planètes ont bien sûr des axes éventuellement inclinés, mais tournent toutes dans le même plan autour du Soleil, à quelques degrés près. Hein, l'écart maximum est de 5 degrés. Donc, on voit bien là que c'est des restes de quelque chose qui tournait uniformément de la même façon. Neptune, lui, il est déjà 17 degrés hors du plan. En plus, il a une orbite très elliptique. En plus, il fait 2/3 de la taille de la Lune, donc c'est un caillou quelconque. Mais comme c'est les Américains qui l'ont découvert en 1930 et que c'est la seule planète qu'ils ont découvert, on ne peut pas leur dire « vous n'avez pas découvert des planètes ». Ici, on a une autre vue de la même planète. Cette fois, les dimensions sont à peu près respectées. Et cela nous permet de nous faire tout de suite une classification. Vous avez 4 planètes qui ressemblent à la Terre, qu'on appelle planètes telluriques. Qu'est-ce qu'elles ont, ces planètes? D'abord, elles sont assez petites. Ensuite, elles sont assez denses. On parlera de densité tout à l'heure pour voir qu'est-ce que cela veut dire. Mais en somme, disons, si vous prenez un briquet d'un litre, que vous y mettiez de l'eau, vous avez un kilo. Si vous y mettez de l'air, vous avez quelques grammes. Et si vous y mettez du fer, vous avez 8 kilos. D'accord. Bon, disons que notre brique à la Terre, par exemple, elle ferait 5,5 kg. La densité de la Terre est 5,5 par rapport à l'eau. Et toutes les planètes telluriques ont des densités assez importantes, alors que les planètes gazeuses et le Soleil même ont des densités qui sont de l'ordre de 1,5 par rapport à l'eau. Et même, il y en a une, Saturne, qui a une densité de 0,7, c'est-à-dire qu'elle flotterait si on la posait sur l'eau. Et tout cela, évidemment, parce qu'elles sont faites de gaz, c'est des boules de gaz, donc elles sont automatiquement légères. Elles sont, en revanche, beaucoup plus grosses que les planètes telluriques. On verra ça, il y a une explication très simple aussi. Elles ont beaucoup plus de lunes, ça va de 30, de 20, 30, 60 lunes, et puis à ce moment-là, il faut commencer à voir qu'est-ce qu'on appelle lune, parce que il y a tellement de choses autour qu'à un moment donné, il faut trancher. Alors que les planètes telluriques, vous voyez, Mercure n'en a pas, Vénus n'en a pas, la Terre en a une, et Mars en a deux, mais c'est de cailloux finalement, c'est pas vraiment de satellites. L'autre chose bizarre, mais explicable aussi, est que les planètes telluriques tournent lentement autour d'elles-mêmes, alors que les planètes gazeuses, qui sont beaucoup plus grandes, elles tournent beaucoup plus rapidement. Donc 9 heures, 10 heures pour faire un tour, alors que la Terre et Mars, c'est à peu près 24 heures, et Vénus, c'est un an. Donc c'est presque un an, oui. Alors là aussi, l'explication, on l'aura peut-être à la prochaine séance, mais en gros, c'est que ces planètes étant plus proches du Soleil, elles ont été freinées par le Soleil. Vous voyez? Donc, une planète qui tourne autour du Soleil, qui n'est pas trop éloignée, elle fait une bosse en direction du Soleil. Et si elle tourne, cette bosse, elle tourne aussi, et ça freine la rotation. Alors, on croit que c'est uniquement les océans qui font des marées. Détrompez-vous, il y a 30 cm de marée sous vos pieds tous les jours. D'accord? La croûte terrestre aussi se soulève et baisse. Et donc, vous voyez que l'effet de freinage est assez important, au point que Mercure et Vénus, les deux planètes plus proches du Soleil, ont été figées, c'est-à-dire elles tournent autour du Soleil, mais elles tournent comme ça, en regardant toujours comme la Lune autour de la Terre. C'est le même mécanisme. Au lieu d'aller dans l'ordre, on commence par la Terre parce qu'il y a quelques paramètres à discuter et au moins ils sont plus familiers pour nous. Bon, le diamètre de la Terre, c'est 12 750 km, plus ou moins 20, pourquoi? Parce qu'au pôle, vous déduisez 20 km et à l'équateur, vous l'ajoutez et vous avez la forme de la Terre. Ensuite, si vous ne vous rappelez pas cette valeur, pas de problème. Vous prenez la définition du mètre qui a été donnée, je ne sais pas en quelle année, lui le sait. Et donc, on a défini le mètre comme la 40 millionième partie du méridien. Hein? Donc, vous prenez 40 000 kilomètres, vous divisez par pi rec, et vous avez le diamètre de la Terre. Bon, l'atmosphère, tout le monde le sait, il y a de l'azote qui ne nous gêne pas, sauf quand il se combine avec l'oxygène, parce qu'alors il donne de composés très toxiques, mais sinon il est là pour faire poids. On a de l'oxygène, et ça on verra que l'oxygène, il n'existe nulle part ailleurs. C'est-à-dire l'oxygène est généré par la vie terrestre. Autrement, on l'aurait pas. Pourquoi? Parce que l'oxygène est réactif, c'est-à-dire il oxyde tout ce qu'il trouve. Et donc, si par exemple on n'avait plus de plantes sur la Terre, au bout de 100 ans, on n'aurait plus d'oxygène. On pourrait respirer encore 10 ou 20 ans, si vous voulez, mais après, il n'y en aurait plus du tout. Et au départ, il n'y en avait pas autour de la Terre. C'est les premières algues qui ont commencé, les premières algues vertes, si vous voulez, qui ont commencé à générer de l'oxygène. On a un peu de CO2, on en parle beaucoup en ce moment. C'est une quantité minime, hein, c'est 3 par 0,3 pour 1000. Hein, ou 0,03. Mais il a un effet. C'est comme une doudoune, le CO2. Donc, c'est la substance qui bouffe les plantes pour fabriquer des feuilles et de l'écorce, du bois, etc. D'un côté, c'est pour ça qu'il y en a peu, parce que les plantes le mangent tout de suite. Et ensuite, avec le méthane, il a une propriété d'isolation thermique. Heureusement, parce que Mars, par exemple, qui n'a pas d'atmosphère, donc qui n'a pas de protection, il est beaucoup plus froid. Le CO2 nous sert pour avoir une température agréable, parce que sinon il ferait très très froid sur la Terre. Les températures, alors là, c'est toujours très discutable. On prend des extrêmes qui finalement ne veulent pas dire grand-chose, parce qu'une fois on a mesuré même 80 degrés en Sibérie, alors c'est rentré dans tous les bouquins. Et même la température moyenne, je ne sais pas comment elle est prise exactement, mais en somme, si on dit 15 degrés en moyenne, ça donne quand même une bonne idée. Alors, nous voilà à la densité. La densité, on peut la mesurer en grammes par centimètre cube, c'est-à-dire vous prenez un centimètre cube, vous voyez, c'est tout petit, vous les pesez, vous regardez combien il pèse, et ça c'est la densité, grammes par centimètre cube. Ou sinon, vous prenez un volume quelconque d'eau, vous prenez le même volume d'une substance autre, et vous regardez les deux poids, vous comparez, c'est toujours la même densité. Donc, que ce soit par rapport à l'eau ou que ce soit en grammes par centimètre cube, c'est toujours le même nombre. La masse de la Terre, je l'ai mise égale à 1 parce que pour l'instant, je ne veux pas vous embêter. La gravité, c'est ce qui fait qu'un kilo pèse un kilo. Hein. Donc, au mieux, disons qu'un litre d'eau pèse un kilo. Vous allez ailleurs, sur la Lune, sur Mars, un litre d'eau ne pèsera pas un kilo. Donc, la gravité, c'est ce qui fait que vous lâchez un poids, vous lâchez un corps, et au bout d'une seconde, il a fait 5 mètres, ainsi de suite. Donc, maintenant que nous avons visité la Terre, nous allons nous servir de ces valeurs pour mesurer tous les restes. Parce que si on voulait mesurer en unité habituelle, c'est-à-dire un kilomètre, etc., on tomberait tout de suite sur des valeurs trop élevées. Alors, disons, jusqu'à 1 million, moi, je sais compter, c'est-à-dire, j'ai l'habitude, si vous voulez, mais 1 milliard déjà, vous voyez, à moins d'être milliardaire, vous n'avez pas vraiment bien la sensation de qu'est-ce qu'est 1 milliard. Alors, on va faire un petit exemple. Prenez une petite pièce qui fasse 2 cm à peu près de taille, donc vous prenez 10 centimes d'euros. Vous en prenez 1 million, vous l'alignez un à côté de l'autre, vous faites 20 km, donc vous allez peut-être d'ici à Bandol. Maintenant, si vous en prenez 1 milliard, vous couvrez toute la distance qui va du pôle nord au pôle sud, c'est-à-dire 20 000 km. Donc, il faut se méfier de. Si on commence à parler des millions, des milliards ou des milliards, des milliards, ça ne nous dit plus grand-chose. On prend des unités beaucoup plus faciles. Par exemple, pour mesurer toutes les distances entre les planètes et le Soleil, on prend comme unité la distance qu'il y a entre la Terre et le Soleil. Bon, c'est 150 millions de kilomètres, c'est facile à retenir. On l'appelle unité astronomique et ce sera notre unité. Les masses des planètes, on va les mesurer par rapport à la masse de la Terre, les diamètres des planètes par rapport au diamètre de la Terre, et ça nous donnera une bien meilleure idée que dire 56 000 km ou des choses comme ça. Également, les périodes de rotation, on va les mesurer en année ou en heure ou en jour quand c'est l'année. La masse de la Terre, je vous l'ai mise là parce que je ne pouvais pas m'en priver, mais ça nous intéresse uniquement, disons. Si vraiment vous êtes curieux, vous prenez le diamètre de la Terre, vous calculez le volume de la sphère, vous le multipliez par la densité, 5,5, et vous avez la masse de la Terre. Une atmosphère, je pense que tout le monde sait qu'est-ce que c'est. Quand on gonfle le pneu, on met 2,5, 2,2, etc. Donc une atmosphère, c'est la pression que nous avons ici au sol. Ça correspond à peu près à 1 kilo par centimètre carré. Et au départ, on l'avait défini aussi comme 760 mm de mercure, parce que c'était la colonne de mercure qui tenait dans un tube vide. Mais aujourd'hui, le mercure, il est banni. La Terre est la seule des planètes telluriques qui a un champ magnétique. Et on pourrait facilement dire pourquoi, parce que c'est la seule qui a du fer en fusion, si vous voulez, à son intérieur. Mais ce champ magnétique, il est essentiel pour nous protéger des radiations du Soleil. Le Soleil, il nous envoie un tas de bonnes choses, il nous envoie de la lumière, de la chaleur, mais il n'est pas trop délicat. Lui, il envoie tout ce qu'il peut envoyer. Donc, il y a des rayons X, il y a des protons, il y a des électrons, etc. Et si ce n'était pas les champs magnétiques et l'atmosphère pour nous protéger, on serait mort à moins de 2. Par exemple, Mars, il n'a ni atmosphère ni champ magnétique. Ben, c'est une planète autostérilisante. Alors, vous y mettez une bactérie, vous revenez le jour après, elle est morte. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent maintenant avec le son. Là, mais non. Bon, vous voyez l'effet des boucliers. Le champ magnétique, il s'aplatit du côté... Regardez le vent solaire en haut à gauche. C'est une photo, hein, c'est pas un dessin. Donc, ça montre ce que le soleil nous envoie. Et vous voyez, le bouclier s'aplatit d'un côté et puis il se rallonge de l'autre. Composition de la Terre. La Terre correspond à un œuf. Vous avez une croûte qui fait un demi-millimètre. Vous avez le blanc qui est la partie sombre, c'est des rochers. Des rochers plus ou moins bien tassés, hein, parce que quand vous êtes en haut, c'est des rochers relativement légers comme les montagnes que nous avons. Et quand on descend, ça commence à être plutôt de la lave, donc des rochers basaltiques qui sont beaucoup plus lourds aussi. Ensuite, il y a un noyau. Bon, au lieu d'avoir seulement un rouge, il y a un double noyau. Parce que c'est du fer, et une partie est liquide, la partie en jaune est liquide, et la partie blanche est solide. Alors, on se demande comment ça s'est fait qu'à 6000 degrés, à l'intérieur de la Terre, il y a du fer solide. C'est parce qu'il y a 2,5 millions d'atmosphères. Donc la pression est tellement élevée qu'elle solidifie les noyaux, si vous voulez. Prenons maintenant le Soleil. La distance, on la connaît déjà. Il tourne sur lui-même environ en 25 jours. Je dis environ parce qu'il ne tourne pas à la même vitesse que ce soit au pôle ou au milieu. Mais bon, ça c'est des subtilités. Il est composé d'hydrogène et d'hélium, presque exclusivement. Et pour la bonne raison que c'est la composition de la nébuleuse primordiale. La nébuleuse qui a tourné et tourné pour générer les systèmes solaires, contenait essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium, et puis un tout petit peu d'éléments plus lourds. La température externe, elle est facile à retenir, parce que quand vous dites chauffer à blanc, hein, vous prenez un bout de fer et vous le chauffez, vous le chauffez, vous le chauffez. Quand vous décidez qu'il est blanc, ben il a 5500 degrés, c'est la température du soleil. Il y a des étoiles qui sont plus froides, elles sont rouges. Il y a des étoiles qui sont plus chaudes, elles sont bleues. Et le soleil, pour nous, est blanc. Alors, c'est notre œil qui a fabriqué les blancs. C'est-à-dire, notre œil est adapté à la lumière du soleil. Et donc, pour nous, c'est blanc quand c'est ce genre de lumière-là. Le soleil, il fait 110 fois la taille de la Terre en diamètre. Il est très peu dense, donc vous voyez, à peine plus que de l'eau. C'est peu compte tenu qu'au centre, il y a des pressions inimaginables. Mais c'est quand même de le même ordre de densité, comme on va le voir tout à l'heure, que les planètes gazeuses. Voilà, on attaque avec Mercure. Mercure, il est très près du Soleil, donc automatiquement, regardez les températures. Quand il regarde, bon, et puis, il donne presque toujours la même face au Soleil. Donc, la face qui est au Soleil, ça fait 430 degrés. Et la face qui est de l'autre côté, ça fait moins 180. On les retrouvera dans la Lune, le même phénomène. Il ne tourne pas sur lui-même, ou très peu, si vous voulez. Donc, il donne pratiquement toujours la même face au Soleil. Quant aux périodes de révolution, il n'y a pas de fantaisie possible. Il est donné par la loi de Kepler. Hein. La loi de Kepler définit la période de révolution d'une planète autour du Soleil en fonction de la distance. Donc, on se met à cette distance-là, il faut tourner en 88 jours. Tout ça n'a pas un grand intérêt, sauf sauf la densité peut-être, vous allez voir pourquoi tout à l'heure, parce que Mercure contient pratiquement 3/4 de fer. Donc il devrait être beaucoup plus dense que la Terre, et il ne l'est pas. Regardez la composition de Mercure. Vous voyez les noyaux, c'est du fer. Le reste, c'est des rochers. Et pourtant, il n'est pas plus dense que la Terre. Ceci parce que la densité terrestre est altérée par les pressions qui existent à l'intérieur. Vous voyez, le fer, par exemple, qui a normalement une densité de 8, dans les noyaux de la Terre, il fait 15. Alors, Mercure étant beaucoup plus petit, il n'a pas cet effet de compression. On pense normalement que les solides, des substances comme le fer ou l'eau, etc., ne peuvent pas être comprimés. Mais c'est parce qu'on a l'habitude à des pressions de quelques atmosphères. Mais si on applique vraiment des pressions importantes, les choses changent. Vénus, elle est à peine, donc elle est à 70% de la distance de la Terre du Soleil, donc elle n'est pas très proche. Néanmoins, elle est figée, comme on a dit, et puis elle a subi un phénomène de dérive thermique, si on peut dire, ou effet de serre. Ce qui fait que la température au sol est absolument intenable et toutes les sondes qu'on a essayé de déposer sur Vénus ont été détruites au bout d'une demi-heure, une heure. Et encore pire, pour ne pas arranger les choses, il y a une pression de 90 atmosphères au sol, ou 100, une centaine d'atmosphères. Il faut aller à 1000 mètres sous l'eau dans un océan pour avoir la même pression. Parce qu'il y a une couche de 130 km de CO2 qui pèse énormément. Alors, c'est là où on peut dire que nous avons de la malchance, parce que si on avait eu Vénus à la place de Mars, vous allez voir tout à l'heure, Mars a une situation enviable. Seulement, il est trop petit et donc il n'arrive pas à retenir de l'atmosphère. Et Vénus est à la mauvaise place, quoi. Autrement, on aurait eu une deuxième planète pour y aller habiter. Donc, à peu près la taille de la Terre, vous voyez, 95% du diamètre. La même densité, à peu près, la même masse, la même gravité, tout pareil. Mais c'est une planète cuite. Donc, la surface de Vénus, on la connaît bien, on la connaît même mieux que la surface de la Terre, parce qu'on y a mis des satellites en orbite qui explorent la surface au radar tout le temps. Donc, on a les cartes. C'est des cartes au radar, mais elles rendent quand même bien le relief. Donc, Vénus, si vous voulez, n'ayant pas un noyau en fusion, n'a pas de dérive tectonique. Donc, sur la Terre, si vous voulez, nous sommes en train de flotter sur du fer, sur des rochers et du fer fondu. Donc, nous allons à la dérive. Comme nous allons à la dérive, où les plaques se séparent, il y a des chaînes de volcans. Les volcans sur la Terre sont distribués selon des lignes, si vous voulez, qui sont les lignes de fracture entre les continents. Vénus, sur Vénus, il y a des volcans partout. Énormément de volcans, on en a compté au moins 1000. Ils sont distribués à peu près partout et le sol est fait de lave. Alors, qu'est-ce qui s'est. Et toute la surface a 500 millions d'années. Donc, elle n'a pas l'âge, si vous voulez, de la planète. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. C'est comme une planète en proie à des énormes éruptions qui se soit figée. Il n'y a plus de volcans actifs, il n'y a plus rien. Mars est à 1,5 fois la distance de la Terre. Il tourne donc en 2 ans à peu près. il tourne autour de lui-même un peu plus qu'un jour. Et quand on dit, bon, atmosphère CO2, mais ça ne compte pas parce qu'il y a un centième de la pression qu'il y a sur la Terre. Donc, ça suffit quand même pour faire des tempêtes de sable, si vous voulez. Vous en aurez entendu parler. Mais ça ne suffit pas pour faire bien mieux. Et du fait qu'il n'a pas d'atmosphère, pas de nuages, etc., il a une température moyenne qui est quand même beaucoup plus basse de ce qu'elle pourrait être. Donc, moins 65 degrés, c'est parce qu'il n'a pas de couverture. Il a deux lunes qui sont deux petits cailloux, on va les voir tout de suite. Il n'est pas très dense, parce qu'il n'a pas de noyau en fer. Il n'a pas de fer à l'intérieur de Mars, pas beaucoup. Et donc, il a aussi une très faible gravité. Voilà. Alors, on fait des hypothèses, mais on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On sait certainement que s'il y a du fer, et il n'y en a pas beaucoup, parce que la densité, si vous voulez, est un indice. Alors, les lunes, ce qu'on appelle les lunes de Mars, au fait, c'est deux rochers. Ils font 30 et 20 kilomètres respectivement. Et on ne peut pas les mettre réellement dans la famille des satellites.